L'affaire à suivre.
Présenté par Sébastien et Antoine sur UFM.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de cette semaine de l'affaire à suivre. Bonsoir Antoine.
Salut Seb.
Alors la semaine passée il y a eu un petit bug et c'est une ancienne de nos émissions qui a été rediffusée. L'émission qui était initialement prévue sera diffusée à un moment, on verra, on s'excuse pour ça.
Non, disons qu'au moment où on enregistre, elle passera bientôt, mais au moment où l'émission passe, elle est censée être passée.
Ah oui, c'est vrai effectivement, mais on n'est pas à l'abri d'un autre bug en fait. Donc bref, il y a eu un bug à un moment. Et nous en sommes désolés, nous déclinons toute responsabilité.
De toute façon, on donne pas la dette.
Effectivement. Aujourd'hui, on accueille nos deux chroniqueurs préférés, nos deux chroniqueurs les plus récurrents, en tout cas ceux qui ont le moins de choses à faire et qui sont le plus souvent là pour venir. Bonsoir Laura.
Bonsoir Seb.
Et bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Alors j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec nos sept auditeurs récurrents. Et alors c'est bien parce que ils caractérisent nos chroniqueurs. Alors Laura, c'est notre chroniqueuse psycho, et Ludo, tu es notre chroniqueur cool.
Yeah. C'est parce que c'est la voix, ça, tu vois, ouais, ça donne l'impression. Que... Mais s'il me voyait en vrai, il serait terriblement déçu.
Non, je pense qu'il t'imagine avec des lunettes de soleil, des dreadlocks comme ça, et donc
oh,
voilà.
Ça
et un
bien.
Joint.
Ah, sans oui, doute. C'est bien ça.
Mais je me suis dit que ça vous ferait plaisir de savoir ça. Laura est pas trop mal catégorisée et Ludo non plus.
Oui, bah.
Tu vois, chacun, on a Florian qui est un peu notre chroniqueuse politique, et puis Ludo, c'est notre chroniqueur. Cool.
On est très surestimé par les auditeurs en fait.
Non mais cool, en fait c'est le gars qui a rien à dire, on t'invite clairement quand il n'y a personne d'autre.
Ça c'est fait.
Ça je pense que tout le monde en était conscient, c'était pas obligé de le dire. Je me sens souillé maintenant.
C'est pas grave Ludo, les auditeurs t'aiment bien. Enfin, ou l'auditeur t'aime bien.
C'est lui avec qui tu as parlé.
Bon alors on va essayer de rentrer tout doucement dans le vif du sujet. On va essayer de parler un petit peu de manière théorique entre guillemets, on va dire de l'intelligence artificielle et de la place que ça peut avoir dans la société, dans éventuellement le monde du travail ou ce genre de choses. Alors aucun d'entre nous n'est calé là-dedans, donc
aucun d'entre nous n'est calé dans rien du tout.
Il y a des choses dans lesquelles on est plus ou moins calé.
Oui.
Je réfléchis, mais je n'en
dire
trouve pas.
Dire de la merde, par exemple.
Ah, oui, ça
c'est bien. Moi, je suis calé là-dedans. Ça, c'est chouette.
Ça, on est très fort. Donc, du coup, on va discuter de ça de manière un petit peu rhétorique. Enfin, on va essayer, encore une fois. Si ça ne marche pas, on discutera du fait que...
On décline toute responsabilité, ouais, encore une fois.
Si ça ne marche pas, on brûlera cette demande. Auquel cas, vous ne l'entendrez pas. Donc, tout ira bien pour vous et pour nous.
Mais c'est super.
Et puis, on se fera virer parce qu'on n'aura pas réussi à maîtriser l'incendie et le studio aura pris feu.
Bon, tu vas voir loin dans le temps, quand même. Hein.
Oui, ouais, j'ai une vision quadridimensionnelle, en fait.
Mais quel homme.
Bref.
Tu sens l'émission sérieusement préparée, là.
Ouais, tu sens l'émission préparée. C'est le commentaire de Laura, je suis en train de rougir. Je suis un peu décontenancé. Bref, donc du coup, en fait, l'intelligence artificielle, on sait que... Bah, déjà, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est déjà loin. On peut faire déjà des bonnes choses avec des petits robots ou ce genre de choses. Et je disais... On va peut-être rentrer dans un sujet qui ressemble un petit peu à l'émission qui nous avait déprimé avec Terence et Nicolas, mais disons que l'industrialisation tend au maximum à remplacer l'humain par la machine, par exemple pour le travail en chaîne ou ce genre de choses, mais est-ce qu'à terme, est-ce qu'on ne pourra pas remplacer, entre guillemets, tous les métiers par une machine, dans le sens où, un peu de manière science-fiction, on pourrait avoir une intelligence artificielle capable de traiter et analyser des données... La question c'est, est-ce qu'on pourrait avoir une intelligence artificielle capable de faire le travail de l'homme pour tout métier? Par exemple, je prends le métier de psychologue, le métier d'interprète ou le métier de chercheur, tout simplement. Est-ce que vous n'êtes pas des experts, hein, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait atteindre ce genre de choses au niveau de l'intelligence artificielle, ou bien est-ce qu'on a des limites physiques, on a des limites psychologiques à ça? C'est une bonne question.
Allez, vas-y, commence et je te suis par la suite.
Enfin, ne connaissant pas le sujet très en profondeur, je me dis que si on parle intelligence artificielle, enfin comme moi j'y pense quand on me parle comme ça, c'est-à-dire des robots, des machines, enfin où tout est géré, disons, par un ordinateur, aussi perfectionné soit-il, il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire dans l'intelligence artificielle. Enfin, je connais pas les détails, mais je sais qu'il y a des critères pour dire, par exemple, quel type de problème à résoudre, quel type de tâche à effectuer est résoluble algorithmiquement, et quelle autre tâche pourrait ne pas l'être. Donc, est-ce qu'on pourrait tout remplacer par une machine? Mais, enfin, sur base de ces critères que je ne peux pas énoncer parce que je n'en ai jamais qu'entendu parler et que je les ai jamais étudiés en détail, il me semble qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, du moins avec des algorithmes et des ordinateurs comme on les connaît maintenant.
Antoine, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, parce qu'en fait, je crois que le problème de l'algorithme, c'est effectivement vrai, on peut pas résoudre n'importe quelle tâche, mais il y a deux types d'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire celle qu'on n'arrive pas encore à complètement maîtriser, elle est capable d'apprendre par elle-même, c'est ça justement qui la différencie des autres intelligences artificielles, et donc elle serait capable elle-même d'améliorer ses algorithmes pour répondre à un problème qu'elle ne peut pas encore résoudre en analysant elle-même ce problème. Et donc là, c'est des trucs qu'on n'arrive pas encore complètement à appréhender, mais avec ce genre d'intelligence artificielle, on pourrait imaginer que la machine pourrait évoluer de manière autonome. Et donc même pouvoir concevoir des algorithmes que nous, on n'arrive pas à concevoir de manière logique. Et là, ce serait extrêmement fort.
Ouais, pour ça, il faudrait... Enfin, comme tu le dis, il faudrait réussir à concevoir un truc qu'on n'arrive déjà pas à appréhender. Du coup, à mon avis...
Il y a déjà moyen, par exemple, de simuler, mais c'est pas une vraie simulation. C'est presque de manière naturelle une évolution darwinienne. C'est-à-dire, on donne simplement une génération de départ. Par exemple, l'exemple que j'avais vu, c'était avec des véhicules. On génère aléatoirement des véhicules. Et ensuite, on les fait rouler sur un... Donc tout ça dans un logiciel, hein, comme si c'était un jeu vidéo. On les fait rouler sur un chemin accidenté. Et puis, après un certain temps... On dit, ok, on prend un nombre arbitraire par rapport au nombre de départs de véhicules, ceux qui sont arrivés le plus loin sur ces terrains accidentés, on dit, ceux-là avaient les gènes, bon, c'est pas les gènes, mais c'est les caractéristiques les meilleures, et donc on les reprend tous, et on reproduit une nouvelle génération sur base des caractéristiques de ceux-là. Ok, et donc on recrée une génération de départ à partir de ceux qui ont été les meilleurs à la séance d'avant et ainsi de suite, et on se rend compte après une dizaine ou une vingtaine de générations que les résultats qu'on obtient, on a des véhicules qui savent rouler sur n'importe quel type de terrain accidenté. Donc au départ des voitures qui ont été construites de manière aléatoire et un terrain qui lui aussi est construit de manière aléatoire. Et donc simplement sur un modèle darwinien, l'algorithme s'est lui-même adapté à un environnement aléatoire. Donc déjà ça c'est super puissant.
En effet, oui. Et c'est pas tant de la science-fiction que ça, du coup.
Non, maintenant, entre cet algorithme-là, qui est sûrement très complexe et très bien conçu, et une machine avec laquelle tu pourrais interagir, qui pourrait réfléchir toute seule et produire des réponses à des problèmes limite qu'elle se poserait toute seule, je pense qu'il y a quand même encore, un pas.
Oui, d'accord. Non, c'est pas encore une intelligence artificielle forte, mais on peut déjà... En tout cas, théoriquement,
on va revenir vers toi.
Théoriquement,
fait des grands signes.
Oui, j'ai envie de placer mon petit mot. Donc, en fait, pour le moment, le problème principal de l'IA, c'est la conscience.
Merci,
donc,
Laurent.
Voilà.
Mon petit mot, donc c'est,
voilà.
C'est tout.
Non, je vais dire un grand mot. Donc, pour le moment, le problème principal, c'est... Oh, les gars, bon, du coup, je m'en vais. Bon, alors, donc, ça, la conscience, donc être conscient de soi, s'identifier, avoir une perception de soi, ça, c'est ce qui pose le plus problème. Et pour rebondir sur ta question, Seb...
C'est ce qui pose le plus problème à ceux qui en ont une, parce que les ordinateurs,
oui.
Ils vont bien.
Ils vont très bien, ils
vont beaucoup
bien.
Mieux que chacun d'entre nous.
Ben, gros, voilà. Et, est-ce que les machines seront capables, un jour, d'avoir ce rôle, peut-être, de psy ou d'un métier plus humain, on va dire ? Que dans les industries à la chaîne, etc. Bah, quand on sera peut-être plus au point sur la conscience de la machine, peut-être que oui.
Mais je vois pas pourquoi le fait que la machine ait conscience d'elle-même soit indispensable.
Bah, bien sûr que
c'est
si.
Parce que c'est comme ça qu'on définit l'intelligence artificielle.
Mais bien sûr.
Et c'est ça qu'on n'arrive pas encore à faire. Mais ce qui on arrive déjà à le simuler assez bien. C'est-à-dire, si vous connaissez le logiciel Emacs qui est un traitement de texte. Enfin, plus évolué, on sait faire des tas de trucs, mais il y a un psychologue intégré à Emacs. Et donc, tu peux lui parler, donc tu lui dis, ah, j'ai tel problème, je me sens pas bien.
Antoine fait ça tous les soirs.
mais c'est étonnant.
Antoine est testeur indépendant, en fait.
et il vous répond, ah, est-ce que tu as essayé de parler avec les gens de ton entourage? Est-ce que tu devrais voir les choses comme ça? Et donc, il faut lui écrire en anglais. Bon, je sais pas si ça existe en français, mais donc, évidemment, il a pas une conscience, il réfléchit pas, mais en fonction des mots que tu utilises, il sait quel genre de réponse il peut donner parce qu'il a été programmé comme ça. Donc, on réussit plus ou moins à simuler de manière, c'est assez fidèle, un psychologue. On n'arrive pas encore à le faire réfléchir par lui-même. Et ça, c'est la prochaine étape. Après, aussi, il y a un théorème déjà qui date d'il y a pas mal de siècles, je crois que c'est même Descartes qui avait réfléchi à ça en disant si on construit une machine parfaite qui reproduit par exemple un mécanisme complexe qui reproduit le comportement d'un animal, on pourrait arriver, si la machine est assez bien construite, à ne pas pouvoir le différencier d'un vrai animal. Et Descartes lui disait, c'est pour ça que les animaux sont inférieurs aux hommes, c'est parce qu'on ne pourrait pas construire une machine comme ça qui pourrait reconstruire un homme, tout simplement, justement, à cause de ce problème de conscience, de libre arbitre et tout ça. Maintenant, si on se dit, qu'est-ce que c'est un être humain à part un cerveau, on sait que la conscience, la mémoire et des choses comme ça, au final, c'est jamais qu'une question mécanique du cerveau.
Oui, moi, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'en fait...
Donc, pourquoi pour,
désolé, Ludo. Attends, je dis mon truc et puis je te laisse la parole. Donc, en fait, je disais justement par rapport au rôle de psy, comme tu disais, il y a ce problème de conscience. Et Sébastien, j'ai l'impression que... Enfin, je vais peut-être approcher quand tu parles, oui, mais pourquoi il y aurait besoin d'une conscience, finalement ? Dans le sens où le psy qui est face à la personne peut se dire si elle répond ça, je réponds ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'est peut-être faisable pour la machine, mais en tant que psy, tu dois être capable d'empathie, tu dois t'identifier toi-même face à cette personne, et c'est ça encore qui pose problème dans l'intelligence artificielle. Ça, l'intelligence artificielle n'en est pas encore capable, même si Nao nous a démontré quelques principes de conscience de soi. Enfin, je sais pas si vous connaissez Nao.
Non.
Nao, c'est...
Pas personnellement.
Ouais. Nao, c'est le dernier petit robot qui a été créé il y a un an, je crois. Et en fait, il a montré quelques signes de perception de soi et de conscience, en fait. Donc, on avait mis trois robots et on leur avait dit, on vous a donné une pilule qui fait que vous êtes incapable de parler. Quelle pilule avez-vous ingérée ? Parce qu'il y avait soit la placebo, soit cette pilule-là. Et alors, Nao répond, je ne sais pas. Et alors, et après, il réfléchit, il fait « Ah ben si, parce que si je parle et que je suis encore capable d'articuler les lèvres, ça veut dire que j'ai pris la placebo. » Donc, conscience de soi. Voilà, ça, c'est les premières petites avancées dans l'intelligence artificielle en ce moment. Et donc, voilà, c'était juste pour partager cette petite anecdote assez intéressante, je trouve.
Je rebondirai là-dessus, mais je vais d'abord laisser parler Ludo, qui lève les mains, qui gesticule depuis tout à l'heure.
En fait, je voulais réagir sur un truc qu'a dit Antoine tantôt, mais je m'en souviens plus maintenant. Non, c'est pas la première fois que ça va, mais c'est pas la dernière non plus, tu sais. Mémoire de poisson rouge.
Je vais rebondir. On va arrêter d'utiliser l'expression rebondir, c'est ridicule.
Oui, parce que force.
On va dire boing. C'est beaucoup plus court, beaucoup plus impactant. Non, ça y est, je me souviens. C'est que le moment où, vous parliez du psychologue dans Emax. Et il peut probablement donner des conseils avisés aux gens, mais il le fait parce qu'il suit sa programmation.
Ah bah oui.
Il y a des gens qui ont fait un algorithme très très long, très très compliqué, où ils ont encodé des milliers de réponses dedans, mais c'est pas,
c'est
pas une vraie intelligence artificielle. Je veux dire, tu mettrais dans le code, si tu dis au psychologue, oui, ma femme m'a trompé, et que tu dis au psychologue de répondre, demande-lui de se mettre un poulet en plastique dans le cul, il va répondre ça.
Bah oui,
il va pas se dire que c'est complètement aberrant.
C'est justement ce que je te disais, c'est qu'on réussit à simuler une empathie alors qu'il n'y en a pas. Et justement, le but de l'intelligence artificielle forte, ce serait de pouvoir la créer lui-même en donnant à l'algorithme la capacité d'analyser son environnement. Et donc ça, on a les balbutiements qui commencent à y arriver, mais aussi toute l'empathie qui peut être liée à la reconnaissance faciale et tout ça. Et donc un ordinateur serait capable, ça on sait déjà le faire aujourd'hui, de reconnaître une émotion sur un visage et donc de pouvoir adapter son comportement.
Non, mais du coup, c'est une fausse empathie.
Effectivement.
C'est une empathie.
Si la simulation est assez bien faite, il n'y a pas de raison que la fausse empathie soit même que la vraie empathie.
Si au niveau théorique, si tu veux une vraie intelligence artificielle forte, c'est pas ça qu'il te faut.
Voilà.
C'est pas une simulation qu'il te faut, mais ça c'est une intelligence artificielle faible.
Faut qu'elle puisse le faire sans que tu l'aies mis dedans à la base.
Qui est déjà extrêmement. Oui, mais c'est ça, c'est le point qui différencie une intelligence artificielle faible qui est capable de le simuler d'une intelligence artificielle forte qui est capable d'évoluer par elle-même et d'analyser son environnement et d'utiliser cette expérience.
Mais dans le cas d'une intelligence artificielle forte, l'empathie sera quand même jamais entre guillemets réelle. Tu vois ce que je veux dire ?
Est-ce que c'est plus réel que les réseaux de synapses dans ton cerveau ?
Oui, mais c'est là que je vais en venir.
Est-ce qu'un circuit électrique qui passe dans une carte mère, c'est différent d'un circuit électrique qui passe dans ton cerveau ? C'est ça qu'on va se poser comme question.
Bah oui, mais pas fondamentalement, somme toute.
Et bah voilà, donc pourquoi pas ?
Mais en fait, je pense que la réponse, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas à l'heure actuelle comment fonctionne le cerveau. Enfin, si, on a d'assez bonnes informations sur un certain nombre de choses. Et je ne suis pas neurochirurgien, donc on en sait sûrement beaucoup plus que ce que je m'imagine. Mais on ne connaît pas pas vraiment les fondements de qu'est-ce qui génère la conscience,
ouais, c'est ça.
L'âme,
c'est ça,
vous ne le voyez pas, mais j'utilise des guillemets autour de chacun de mes mots. parce que, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de, d'assez abstrait, d'assez impalpable, la conscience, l'âme, la personnalité, etc., peu importe comment on l'appelle. Mais je veux dire, on voudrait le reproduire, mais sans savoir ce que c'est. Donc, on a toutes les chances de se planter. Enfin, je veux dire, à moins d'y arriver par accident. Ce que je pense, c'est que tant qu'on... Enfin, après, je pourrais être surpris par les avancées technologiques, mais tant qu'on ne saura pas précisément ce qu'on essaye de reproduire, à mon avis, on a toutes les chances de se planter en essayant de le reproduire. Enfin, je ne sais pas si je suis clair.
Non, t'es clair, mais il faut différencier deux choses. On a parlé du fonctionnement du cerveau. Ça, on ne comprend pas encore complètement, donc on ne peut pas... imaginer le recréer de manière physique, c'est-à-dire au niveau du hardware, créer des circuits qui permettent de refaire ça. Par contre, ce qu'on connaît assez bien, c'est les mécanismes de tout ça au niveau des comportements humains. Donc ça,
oui, on peut imaginer
les mécanismes extérieurs. Donc ça, on veut les simuler en disant à l'algorithme, tu dois t'adapter de telle manière, parce que ça, on le sait comment on le fait, parce qu'on a des milliers d'années d'études de psychologie, même si la psychologie est considérée comme une science depuis pas très très longtemps. On a cette étude-là qui s'est faite depuis très longtemps, parce qu'on a toujours réfléchi à ça. Maintenant, si tu veux construire une machine qui fonctionnerait comme un cerveau, là, effectivement, on n'en est pas encore capable. Mais le but de l'intelligence artificielle, pour le moment, c'est pas ça. C'est pas de fonctionner comme un humain. Enfin, en tout cas, de reproduire les mécanismes extérieurs, pas de fonctionner comme un humain.
Oui, je suis d'accord, mais c'est peut-être mon côté physicien-théoricien, mais je pense que là, je suis d'accord, on essaye de reproduire le comportement, disons, effectif, mais sans en connaître la cause. Du coup, on essaye de bidouiller un truc pour qu'en surface, ça ressemble au truc qu'on connaît en surface, mais dont on connaît pas le fond.
Mais après, comme disait Antoine, si en surface ça ressemble suffisamment au comportement qu'on veut modéliser, tu sauras pas dire. Si tu regardes ta machine qui en surface reproduit précisément, exactement ce que tu veux qu'elle reproduise, tu sauras pas dire que derrière il y a pas la compréhension.
Ouais, c'est tout l'objet du test de Turing.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le but quand même, c'est de reproduire quelque chose qui fasse. Enfin, qui fasse, je sais pas si c'est français, mais enfin bref.
Qui fasse genre qu'en fait c'est comme si
voilà,
c'était.
Exactement. Non, le test de Turing, c'est de faire en sorte que le juge extérieur ne sache pas s'il est en train de parler à une machine ou à un être humain. Et pour ça, je suis désolée, mais c'est pas parce que le mécanisme extérieur est bon que d'office tu vas te tromper et te dire oh ouais, je ne sais pas si c'est un humain ou une machine.
Bah déjà,
non,
le,
bien sûr qu'il faut un mécanisme intérieur qui est complètement parfait et conscient de soi.
Ouais, c'est ça. En plus, je connais pas les détails du test de Turing, mais je sais que c'est un truc assez poussé, très oui, détaillé sur le plan logique, etc. Donc, je veux dire, quelqu'un qui fait passer le test de Turing, c'est pas vous et moi qui pourrait se laisser éventuellement abuser si c'est suffisamment autocohérent. Il y a des questions bien précises, bien ciblées à poser pour aller baiser la machine.
Oui, parce qu'on présente le test de Turing comme une simple conversation avec la machine et après dire est-ce que c'est une machine ou un humain ? Non, donc il y a vraiment des processus comme tu disais. Après, si je sais pas si vous avez vu le film Ex Machina, non ? Oh, Guillaume, tu me manques là tout de suite.
Donc, non, je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est.
Ouais, Guillaume, donc, si tu nous écoutes, d'abord merci. Ensuite, tu nous manques.
Voilà, exactement, parce que là tu m'aurais appuyé peut-être sur le sujet, je ne sais pas si tu l'avais vu. Enfin bref, je vais arrêter de converser avec toi via ce micro.
D'autant plus que tu peux difficilement te répondre. Allez chercher la table de Ouija pour Laura, s'il vous plaît.
Guillaume, es-tu là ? Enfin bref.
Ah, j'ai Guillaume au téléphone, il me dit va te faire foutre Laura.
Ah, c'est peut-être ça, voilà. Donc, dans Ex Machina, qui vulgarise énormément la chose, il y a cet observateur extérieur qui est en train de converser avec la machine, qui est d'apparence humaine et qui a vraiment ce mécanisme de pensée humain. Et donc, il se fait facilement berner par elle. Oui, mais il n'y a pas tous les processus qu'on décrit normalement dans le test de Turing, en fait. Donc, si jamais vous voulez aller voir, ça donne un petit exemple de ce que peut être le test de Turing en vulgarisation complète. Voilà, voilà.
Mais bon, après...
Mais du coup, j'ai jeté un froid, je me sens mal. C'est gentil, les copains de m'accompagner.
Pas sûr que ce soit complètement lié à la conception physique du truc. Donc,
comment ça ?
Vous aviez l'air de dire que pour qu'une machine réussisse le test de Turing, il faudrait forcément qu'elle soit basée sur une construction qui ressemble au cerveau humain. C'est pas sûr du tout.
Non, pas qu'elle soit basée sur. Enfin, elle peut s'en baser, mais peut-être qu'il y aura des mécanismes par la suite qui seront complètement différents des mécanismes du cerveau humain, mais qui reproduiront cette conscience.
Oui, c'est ça.
Bah oui, bah donc c'est le but des algorithmes adaptatifs. Je sais pas comment.
On veut pas un cerveau en métal, mais enfin
c'est ce que tu avais l'air de dire tout à l'heure.
Non, enfin...
Non, des circuits semblables, je pense, que tu voulais dire,
oui,
c'est ça ?
Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on veut reproduire l'effet sans en connaître, à mon sens, suffisamment bien la cause que pour que ça marche. Mais après, eh ben, je suis pas dans le domaine.
Justement, je crois pas. Et ce type d'algorithme capable de s'adapter peuvent reproduire extrêmement fidèlement, enfin pourront probablement, parce que vu déjà à quel point on en est maintenant, alors qu'on en est au tout début de ce genre de recherche-là, il y a de fortes chances qu'on réussisse à créer des choses extrêmement semblables, sans pour autant savoir ce qui dans le cerveau humain peut permettre d'avoir ce genre de comportement.
Je suis d'accord avec toi, d'ailleurs ça alimente un peu cette peur du « Oh mon Dieu, on va en arriver à Terminator, quoi. Bah, » Il va y avoir l'intelligence artificielle, elle va prendre le pas sur l'humanité, on est foutu. Donc ça alimente un peu, mais en même temps on en est quand même assez loin, il faut qu'on se rassure là-dessus. Peut-être que ça arrivera, je ne sais pas moi, dans 10-15 ans, ou peut-être même dans 5 ans. À la force dont la technologie avance maintenant, on n'est jamais sûr de rien, mais je pense qu'on a quand même une marge.
Cela dit, dans Terminator, les machines, elles n'ont pas vraiment envie de gagner quand tu regardes le film. c'est peut-être s'offrir une pause musicale.
Justement, ça veut dire qu'elles vont au-delà de leur programmation.
Doum doum doum.
Doum 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 doum.
Bah non, mais c'est vrai.
Bon, on n'aurait rien dû dire, laisser le petit cliffhanger et puis relancer la musique et reprendre tout à l'heure. Que nous proposes-tu, Antoine ?
Bah t'inquiète, ça va bien changer l'ambiance parce que c'est la chanson du dimanche.
Ah d'accord.
Avec super pouvoir d'achat.
Vas-y, je t'en prie.
Salut, c'est la chanson du dimanche. La pêche. Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais plein d'objets sans fil. Un écran plat, la vie serait plus facile. Je t'achèterais un stylo, je t'achèterais un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait acheté. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais des boîtes en plastique. J'achèterais une tente quechua. Aujourd'hui on ne sait jamais. Je te ferai le TER, je t'emmènerai jusqu'à Beauvais. Peut-être même que je pourrais payer l'hospice de bébé. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait acheté. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierai moins d'impôts. Parce que les impôts c'est bien fait. Je m'achèterai un barbecue avec un allume-barbecue. Je m'achèterai un rat de Vélaire pour protéger mon barbecue.
Puis je placerai 1000 euros à l'excellent taux de 4%. Ce qui me fera au bout de 10 ans, et la coquette somme de 400 euros, 400 euros, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du tadana et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus, toujours un peu plus. La 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 la, 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 la 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 la. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait acheté. Donnez-moi le pouvoir d'achat.
Pourquoi je ferais la
Non, on y est. Hein.
Voilà, voilà. Bravo Laura, belle reprise.
Tu as oublié,
tout compris.
Là, vous avez, eu la... vous avez pu admirer la capacité de Boeing de Laura.
Exactement. Ouais,
je sais ce que je dois faire. Je sors de mes papiers.
Voilà. C'est heureusement qu'une intelligence artificielle n'est pas basée sur moi parce que ce serait une catastrophe. Voilà.
Effectivement.
Au moins, on rebondit un petit peu aussi.
Du coup, pour en revenir à notre intelligence artificielle, on a discuté du concept théorique. Donc, on va partir du postulat que c'est possible, que ça marche très bien. Et on va s'intéresser un peu aux conséquences que ça pourrait avoir si ça marchait très bien. On va se dire.
Mais c'est maintenant qu'on déprime.
Et c'est maintenant qu'on déprime. Voilà, ça, je vais faire quelque chose que je déteste quand on le fait en physique, mais je vais me permettre de le faire en informatique par pur esprit de vengeance. On va dire, avec l'avènement de l'informatique quantique, tout ça, ça va marcher très bien. donc, du coup, Ludo, peut-être que tu voulais un peu embrayer sur une conséquence, le monde Terminator qu'on aura.
Non, ben.
Voilà. Enfin, merci.
Non, bah en fait non. Non, ce que je veux dire, c'est que si on suppose qu'on peut le faire, ben bah, ça va soulever tout un tas de problèmes éthiques. Je pense, je veux dire, si la machine est capable de remplacer l'homme et a priori de travailler 24 heures par jour tant que tu lui fournis du courant et pour a priori pas cher, juste, enfin, juste le prix de la construire. Après, il faudrait imaginer combien ça ferait, etc., etc. Mais bon, mettons que ce soit plus rentable de faire travailler une machine parce que tu l'achètes une fois et tu la fais travailler 120 ans plutôt que des êtres humains, ben. Bah, Ça pourrait poser de sérieux problèmes. Je veux dire, ce serait sûrement viable d'un point de vue économique, mais on serait tout un chacun au chômage et les seuls métiers qui resteraient d'avenir, ce serait l'entretien de ces robots.
Et du coup, on n'emmènerait pas loin.
Ou entrepreneur, comme ça tu as ta propre société, au lieu de délocaliser en Chine comme ils font maintenant, bah ils font directement les robots comme ça. Les Chinois aussi sont au chômage. Et au moins, on n'a plus du Chinois surexploité.
Tu peux pas mettre tous les Chinois au chômage, ils sont trop nombreux.
Ouais, non, mais c'est une conséquence. Enfin, sachant qu'on a un monde extrêmement capitaliste, je pense que ceux qui tirent les ficelles des multinationales, s'ils avaient le choix, ils n'hésiteraient pas une demi-seconde entre des robots performants H24 et les êtres humains à qui il faut accorder des pauses, qui ne peuvent travailler que 8 heures par jour. C'est un scandale, vous comprenez ?
Il y aurait ce point négatif, comme quoi l'intelligence artificielle l'emporterait, ce serait le premier pas d'écrasement de l'humanité, vu qu'on n'aurait plus rien à faire et qu'on serait en train de s'engraisser dans nos canapés. Mais,
parles de Wall-E, en fait.
Oui, je suis en train de me dire, tiens, ça me fait référence à Wall-E. Donc voilà, petite référence. Mais il y a aussi ce point positif, où justement, on pourrait faire plein de choses de nos journées. Bon, c'est un point quand même négatif. Au fur et à mesure, je pense qu'on s'embêterait énormément. Et
le taux de natalité va augmenter drastiquement.
Il y aurait un baby-boom face à cette intelligence artificielle. Voilà. Donc, ce serait... Limite, on arriverait dans un truc un petit peu Matrix, comme ça, au fur et à mesure. Enfin, moi, j'imagine ça comme ça. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, mais... Je pense que ce serait le gros extrême de l'intelligence artificielle si elle l'emportait.
Admettons que on ne puisse pas produire les droïdes. Je suis déjà dedans.
Toi, t'es déjà quelques siècles plus loin encore.
Attends, on est en 2016. C'est très dur de voir en 4 dimensions, vous savez.
Dis donc.
Projette-toi dans la coupe.
D'accord.
T'es égal 2016.
Voilà. Ouf, c'était pas évident. Je te remercie, Ludo. Du coup, j'ai complètement perdu le fil de ma pensée.
Mais
avec
t'es en train de dire et imaginons que cette intelligence artificielle, et
imaginons que ce soit pas possible de produire à la chaîne des robots avec la dite intelligence artificielle qui remplace l'humain, mais qu'on puisse quand même en produire quelques-uns pour certains métiers en particulier. Donc par exemple, on ne pourra pas remplacer tous les travailleurs
sociaux.
Voilà, c'est ça, mais on pourrait très bien remplacer les chercheurs, les psychologues, les interprètes ou ce genre de choses, ou les médecins par exemple. Tu vois, par exemple, on pourrait remplacer les médecins, comme ça tu dis, écoute, si c'est une intelligence artificielle parfaite, il n'y a
aucune
erreur possible, que ce soit pour les médecins, pour les psys par exemple ou quoi. Et du coup, si on regarde dans cette optique-là, ça peut avoir d'autres conséquences que...
Mais là, je suis...
Des conséquences positives aussi, enfin, positives.
Ouais, parce qu'ici, je sais qu'ils avaient travaillé sur le fait de construire un médecin intelligence artificielle, mais pour moi, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, dans le sens où... Enfin, pas forte comme le disait Antoine tantôt, parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin de cette conscience. Oui, c'est un travailleur social qui est le médecin, mais il n'a pas franchement besoin d'empathie. D'ailleurs, vous avez tous été chez un médecin qui n'était pas empathique pour un sou, mais c'est plus des algorithmes. Ah, oh, tiens, il a ça,
pour les sous,
il a ça.
En tout cas.
Ah, 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 ah. On applaudit l'humour.
Moi, je trouvais ça drôle.
Ouais, moi aussi.
Mais c'est plus du genre, oh, il présente de la fièvre, il présente tel symptôme. hop, je suis mon algorithme et je sais que ce sera telle maladie. Donc, pour moi, oui, ce serait possible de remplacer le médecin, mais pas le psychologue, en tout cas. Hein.
Si tu as fait médecine, arrête de te sentir intelligent. Tu suis des algorithmes, ok?
Voilà, désolé. J'allais dire un prénom. Je suis désolé.
Mais non, mais ce sont des travaux mécaniques.
Bah,
la
oui,
plupart des travaux le sont,
ouais.
En fait.
Oui, c'est ça.
Oui,
mais...
c'est ça, en fait. C'est que, y a, à part des métiers artistiques, comme la recherche fondamentale, y a beaucoup de métiers qui, dont, à mon avis, on pourrait montrer avec les critères que je disais tantôt que je connais pas, mais qui existent, qu'on doit pouvoir les faire algorithmiquement. Maintenant, mm-hmm. y a aussi souvent la difficulté technique de, au plus le travail demande de la minutie, au plus la machine doit être précise, et donc au plus c'est difficile de la construire. Mais
bah, même
quant à savoir si c'est. Pardon ?
Même des travaux artistiques, on pourrait imaginer des machines le faire. Parce que c'est jamais que la projection d'une conscience sur le monde extérieur. Donc si une machine est capable de concevoir son propre contexte, elle peut l'exprimer de différentes manières. On peut imaginer de manière artistique aussi.
Mais on peut l'imaginer aussi pour la recherche fondamentale, par exemple. Parce que tu vois ce que je veux dire. Si on considérons toujours, mettons-nous dans l'approximation...
Bah, la recherche fondamentale aussi, c'est de la mécanique.
Ouais, mais non, mais par exemple, quand tu prends la recherche très théorique, à un moment, il a bien fallu inventer, entre guillemets, le mécanisme de Brot-Engler X, par exemple. Tu vois, une machine, à cette époque-là, c'était extrêmement révolutionnaire, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'une machine serait capable de quelque chose d'extrêmement révolutionnaire avec tout ce qu'elle a?
Bah, si elle avait une conscience qui peut dire ce qu'elle pourrait faire ou pas faire.
Oui, oui.
C'est ça le truc. C'est que si tu penses à une intelligence artificielle pas forte, a priori, ça semble plus difficile qu'elle fasse apparaître un concept...
Mais on s'en fout des intelligences artificielles faibles. On veut des formes.
Et les
intelligences artificielles faibles, on leur fera faire des sciences molles.
Oh! Qu'est-ce que tu veux, toi?
Je dois vraiment répondre à cette question.
Mais justement, en plus, c'était une intelligence épique. Forte qui devait reproduire les sciences humaines.
Les sciences molles.
Mais oui, les sciences molles, voilà.
C'est juste que j'adore cette dénomination.
je trouve ça horrible.
Je sais pas si tu as écouté l'émission, je ne sais plus si c'était sur quoi, on a eu un débat là-dessus où c'était un peu réducteur de dire sciences molles parce que, genre, moi je fais des sciences molles, juste je suis mou.
C'était celui sur la philosophie.
Ouais, je pense bien que c'était
non,
celle-là.
Je n'ai pas encore su écouter celui-ci.
Bah non, elle n'est pas passée.
Ah, bah oui, c'est d'accord pour ça.
Ah, bah voilà, c'est pour ça.
Bah, du coup, quand cette émission-ci passera, elle sera passée, donc vous aurez pu l'écouter.
Voilà. Du coup, pour revenir un peu, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, l'intelligence artificielle est déjà partout. Enfin, elle grandit de plus en plus autour de nous.
Et là, Laura retire sa peau et dévoile son visage mécanique.
Non,
mais...
On a parlé d'intelligence artificielle forte, Ludo.
Oh et, mais je vous embête, hein, je me fais réduire de toute part ici. Les sciences molles, l'intelligence faible...
Bon, tu parles la molle ou...
oui, donc...
Tu vois, parce que elle dit oui donc, elle est à fond dans son truc, oui donc, et puis elle se rend compte
que
cette émission ressemble au pub pour le cyberharcèlement qu'on voit à la télé, quand on te montre des exemples très tristes, et puis on te dit ne faites pas ça.
C'est exactement
là,
ça.
Là, c'est pareil.
Au secours, chers auditeurs.
Je t'en prie.
J'ai pas vu le film.
On a plus parlé d'intelligence artificielle depuis 2 minutes, en fait.
C'est pour que les auditeurs nous suivent, en fait. Ils étaient en train de se dire que ça devenait chiant, donc. Quand tu te moques des gens, excuse-moi, Laura, elle avait l'air d'avoir retrouvé le fil de sa pensée.
Oui, je voulais citer une anecdote qui est arrivée il y a vraiment pas longtemps. Je pense que c'était en avril. Il y a Microsoft qui a sa propre intelligence artificielle qui s'appelle Tai.
Qui s'appelle Bill Gates.
Non, elle s'appelle Tai. Et en plus, c'est une femme. J'allais dire un truc, mais c'était très sexiste, et du coup, je me diminuais moi-même, enfin bref.
Que du coup, c'était forcément une intelligence faible.
Non, du coup, c'était pas étonnant qu'elle ait un petit peu foiré sur le coup. En bref, voilà, vous avez vu.
Cette émission devient n'importe quoi,
oui, cette émission devient n'importe quoi, chers auditeurs. Oui, donc Tai a foiré, disons-le franchement, puisque, comme le disait tantôt Antoine, le but est que l'intelligence artificielle apprenne d'elle-même. Et donc, pour le moment, elles font énormément de mimétisme. Mais ce problème du mimétisme posera aussi problème si on imagine la société avec toutes les intelligences artificielles. C'est que Tai, normalement, poste des messages sur Twitter toute seule. Et le problème, c'est qu'elle a posté des messages néo-nazis et extrêmement racistes. Pourquoi ? Parce qu'elle avait décrypté tous les messages... Des gens qui étaient sur Twitter, et elle avait vu énormément de messages néo-nazis racistes, et du coup par mimétisme elle a appris ces messages et elle les a rediffusés, et du coup ça poserait évidemment problème dans cette société qu'on imagine maintenant, dans le sens où
si toutes les machines devenaient néo-nazies, voilà, ouais, ça pourrait être embêtant.
Ce serait un peu embêtant qu'elle apprenne par mimétisme et que finalement la machine dise vu la société d'aujourd'hui, salaud machin, enfin bref. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote, ce petit point négatif de l'intelligence artificielle qui apprend par mimétisme.
Oui, c'est après, c'est le modèle de base qui a un problème aussi au niveau, à ce niveau-là.
Quoi, c'est la femme qui te pose problème, c'est ça?
Non, je parlais pas de la femme, je parlais de l'être humain en règle générale.
L'être humain.
Bah t'imagines si une intelligence artificielle forte, apprenant par elle-même avec aucune base morale implémentée au départ, devenait spontanément raciste. Là, on serait mal. Hein. Parce que là, tu dirais donc, c'est donc la nature profonde.
Oh, ouais, là, tu soulèves un problème...
Le pouvoir des chats.
Et après, on s'étonne que t'es surnommé chroniqueur cool. Hein.
Ouais, c'est dans ma tête, ça tourne en boucle.
Ludo, tu pourras arrêter parce que la fumée de tes joints, c'est gênant dans le studio, on ne se
voit
plus.
Il fait bleu dans le studio, mec.
Oui, non, c'est une question profonde que tu soulèves, Antoine.
Maintenant, on pourrait se demander dans quelle
ambiance. Hein.
Ouais, non, mais...
Mais t'as un don pour ça, il faut le dire. Oh pardon, excuse-moi, c'était méchant.
Après, elle s'éteint quand on la clash, mais en fait, on la clash juste pour défendre Antoine. Moi, je dis ça, mais on l'aime.
Attends, vous n'avez pas besoin de clasher les gens pour me défendre. En plus, j'ai absolument rien dit, c'est la vérité.
Non, mais la
non,
question...
Non, c'est vrai, tu soulèves un point super intéressant, je trouve, vas-y Ludo.
La question à ce moment-là, ce serait de se demander dans quelle mesure est-ce qu'on a vraiment reproduit les fondements de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, ce qui serait d'ailleurs à définir, ou dans quelle mesure on a reproduit... Ce que nous, enfin toutes les dérives qui peuvent exister de par notre, je vais réussir à finir cette phrase. Je sais ce que je veux dire en fait, mais les mots viennent pas.
C'est le genre qui monte.
Si tu veux, je la termine parce que j'ai compris ce que tu veux dire.
Vas-y, fais-le et ce sera très impressionnant.
Donc j'imagine que ce que tu voulais dire, c'était que peut-être que dans sa conception, on lui a permis d'avoir cette évolution qui était la même que la nôtre.
C'est pas forcément à la base d'un modèle de l'intelligence au sens le plus pur du terme, mais que ben voilà, on lui aurait malgré nous, de par le fait encore une fois que ben on comprend pas encore tous les mécanismes de l'intelligence, on lui aurait implémenté, disons, ce genre de mécanisme de par la manière dont on comprend nous-mêmes les mécanismes de l'intelligence qui pourraient être erronés.
Oui, mais justement, si c'est une intelligence artificielle forte et qu'elle est capable d'analyser elle-même son environnement pour elle-même apprendre, son évolution devient indépendante de ce qu'on veut, de l'évolution qu'on veut lui faire suivre.
Et finalement, elle deviendrait limite plus parfaite que nous, tu vois.
Oui, mais du coup, faudrait...
Mais surtout, on pourrait se dire que son évolution serait parfaitement logique au sens mathématique du terme, puisqu'elle analyserait son environnement de manière logique et ensuite s'adapterait en fonction. Et donc, si elle devient comme nous, ça veut dire que non seulement on a pris cette voie-là, mais que peut-être parce que c'était l'unique voie possible, parce que c'est la voie qui est logique, et ça, ce serait quelque chose d'assez terrible. Et il y a des gens qui ont ce genre de discours maintenant face au capitalisme en disant « ça sert à rien de se battre contre le capitalisme, parce que c'est l'évolution économique normale et naturelle ». Et donc ils emploient des arguments darwiniens pour expliquer pourquoi aujourd'hui notre société est capitaliste, pour dire « ça ne peut pas être autrement, parce que c'est l'évolution naturelle des choses, et on ne peut pas aller contre l'évolution et contre la nature profonde humaine ». Et donc ça c'est un argument extrêmement grave pour dire « ça sert à rien de se battre ». Donc imaginez si une machine reproduisait, en dehors de toute influence humaine, un comportement... qui est moralement assez mal accepté, ça poserait un énorme malaise.
Pour rebondir sur ce que tu disais sur le capitalisme, je ne suis pas en train de cautionner l'argument, loin de là, mais il faut reconnaître que le modèle « pousse-toi que je m'y mette » capitaliste est quand même assez proche du concept de sélection naturelle quand tu regardes de loin.
Bah oui, justement, c'est ça qui...
Mais ça veut pas dire que c'est le, disons, le point final de l'évolution et que donc on peut pas essayer d'en décoller, hein, justement, en évoluant de nouveau et en allant vers quelque chose de peut-être mieux construit, mais...
Non, mais la question c'est justement, est-ce que comme l'espèce humaine a réussi à prendre conscience de sa place dans le monde, est-ce qu'elle n'a pas dépassé le stade purement de la sélection naturelle? D'ailleurs, justement, si aujourd'hui les structures sociales sont ce qu'elles sont, c'est aussi parce qu'on a pu dépasser le stade des comportements qui sont juste de la défense pour pour défendre l'espèce.
Ouais, mais le fait qu'on ait pu les dépasser à certains endroits, est-ce que ça veut dire qu'on peut les dépasser partout ou qu'on pourra les dépasser partout?
Bah, c'est la question.
Mais
on n'en sait rien.
Justement, pour reprendre cet argument concernant le capitalisme ou même en général, il y a un mot-clé dont on a parlé et qu'on va revenir sur l'intelligence artificielle, c'est moralité, on disait tout à l'heure éthique. Est-ce que justement, on parlait de la machine qui, sans avoir de moralité entre guillemets, ou de ce qu'on peut appeler le sens moral, parce que tout le monde n'a pas le même sens moral, encore une fois, c'est une notion subjective. Est-ce que c'est justement...
Ça n'a même pas de sens de parler de ça du point de vue logique.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour une machine, donc, est-ce que la différence ne serait justement pas au niveau de la moralité? Tu vois ce que je veux dire?
Tu veux pas en parler après de la musique?
Allez, on peut en parler après la musique.
Le pouvoir des chats. si tu passes autre chose, moi je quitte le plateau, je la veux encore.
Bah, c'est pas grave, parce qu'on va écouter Son of Sam d'Eliot Smith. On est de retour, ça va être la dernière partie de cette émission, déjà, le temps passe vite. Seb lançait un débat assez intéressant en nous parlant de morale. On se disait que peut-être, si on veut construire une machine au départ sans aucune base morale, elle pourrait analyser son environnement et évoluer par elle-même. Mais finalement, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il faudrait lui mettre de la morale, justement? Et donc, il y a des comités d'éthique et des choses comme ça qui réfléchissent déjà aux avancées de la médecine. Est-ce qu'il faudrait pas le même genre de choses pour la... Oui, tu agites.
Je crois que la psy voudrait dire quelque chose là-dessus.
Oui, la psy aimerait dire quelque chose, effectivement. Donc, si on suit cette logique d'intelligence artificielle forte qui devrait avoir cette conscience, la conscience va donc se développer elle-même. Et donc, de base, il y aura de fils une morale, selon moi, parce que l'enfant qui se développe... Enfin, on part de ce principe développement, hein, attention. L'enfant qui se développe a d'office une morale qui se construit. Donc pourquoi la machine n'aurait pas aussi, en se développant, cette morale qui se construit?
Bah oui, justement, en fonction de son environnement, justement.
Oui, en fonction de son environnement. La différence, c'est que la machine, comme on disait, elle se construit de manière purement logique, tandis que par exemple dans le développement d'un enfant, tu ne te construis pas toujours de manière purement logique. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est un peu de l'aléatoire, mais du coup.
Donc ça voudrait dire qu'il faudrait éduquer aussi, d'une certaine manière, la machine, c'est-à-dire ne pas la mettre dans n'importe quel contexte.
C'est ça.
Et donc on garde un contrôle à ce niveau-là.
Dans la région de la Louvière.
La machine n'est pas non plus destinée à être parfaite. Si on suit le principe de reproduire une intelligence humaine, ce n'est pas le but d'être parfait, mais c'est le but de savoir se développer et de s'adapter sans toutefois être dans une complète logique.
Oui, mais là, on parle d'un débat théorique, donc c'est en pratique, c'est ce vers quoi l'intelligence, enfin en tout cas ceux qui font de la recherche sur l'intelligence artificielle.
Oui, il y a cet élitisme, évidemment, mais moi je suis plutôt dans ce trip théorique, mais tout en gardant les pieds sur terre, voyons.
Oui.
Dis donc.
C'est pas notre genre de garder les pieds sur terre.
J'ai pas compris trip théorique, garder les pieds sur terre.
Garder quoi sur
les physiciens parlent.
Non, mais du coup, alors il faudrait. Donc ça laisse une part d'humain dans les questions. Du coup, il faudrait. Et s'il y a un comité d'éthique, qui on met dedans?
Ça, c'est toujours un problème. Parce que
quand on a des curés, des imams et des rabbins qui réfléchissent, mais arrête de rire. Quand on a des curés.
Pourquoi tu dis moralité et ce genre de mots dans la même phrase?
Justement, j'y viens.
Vous n'avez pas vu, sur l'auditeur, le regard foudroyant qu'Antoine vient de balancer à Ludo.
Laisse-moi terminer mes phrases et rebondis, vu que t'adores faire ça quand j'aurai terminé.
Très bien.
Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça paraît normal qu'on mette des gens comme ça dans un comité d'éthique qui réfléchit à la bioéthique? C'est-à-dire, est-ce que vous croyez normal qu'un curé vienne vous dire ce qui est bien ou pas bien au niveau de l'avortement? Voilà, le genre de problèmes qui vont se poser de manière encore plus forte. Parce que là, ça va se baser sur la conception même de l'évolution humaine. Donc déjà, ces gars-là sont pas d'accord avec le concept d'évolution. Donc a priori, déjà au départ, ils pourraient se dire, de toute façon, ça va pas marcher. Sauf que ça va marcher. Et après, ils vont se dire, d'accord, mais on dénature complètement ce qui fait l'essence même de l'humain. Et alors, il y a plus de contrôle. Il est où Dieu là-dedans? Donc on va avoir de gros problèmes avec ce genre de trucs. Moi, je vous le prédis, les grands problèmes.
Je confirme, il a raison.
Mais enfin, le problème, je pense, c'est que la notion de morale, d'éthique, c'est une construction purement humaine.
Et purement subjective.
Oui, c'est ça. Ça n'existe pas de manière tout à fait naturelle. Je veux dire, dame nature n'est pas juste, dame nature n'est pas pondérée, dame nature n'a pas d'éthique. Enfin, je veux dire, dans la nature, c'est un système de poussoir que je m'y mette, comme je le disais tantôt.
D'accord.
Du coup, si on veut effectivement que le robot ressemble à l'humain au sens où on croit devoir le définir, il faudrait lui mettre une morale, mais elle ne saura jamais convenir à tout le monde.
Mais justement, puisqu'on a dit, si on le laisse évoluer dans un environnement, son évolution va dépendre de son environnement. Et donc, c'est la question humaine de dans quel environnement on le met. Et c'est là que ça va apparaître, si on ne veut même sans lui mettre une morale au départ. Donc, il reste le problème de l'éducation de la machine, qui est humain. Et voilà, et là, qu'est-ce qu'on fait?
Et ce serait assez marrant quand tu dis environnement, moi j'imagine la machine parmi les humains, etc. Et si justement on met
juste des machines ensemble,
oui,
et on les laisse faire.
Et on les laisse faire et voir comment ça se développe, je serais assez intéressée. Si elles ont chacune une conscience propre, comment ça va se passer?
Ça, ce serait une expérience incroyable.
L'expérimentation
qui ferait extrêmement peur, mais le problème c'est que ça prendrait énormément de temps. Est-ce qu'on a 100 000 ans devant nous pour étudier ça?
Et en même temps, si ça se trouve, il y a tellement de choses cachées que c'est en train de se réaliser en ce moment même, hein, peut-être.
Ah, c'est possible.
On ne le sait pas, mais on est tous les quatre des machines, en fait. Et
voilà.
Cette émission n'est pas diffusée sur les ondes, elle est récupérée par des scientifiques qui les analysent.
Vous avez compris qu'ils se définissent comme des intelligences fortes et que je suis l'intelligence faible du groupe. Hein,
non, molle.
J'ai une intelligence molle. Donc
on vient d'inventer un concept.
Ouais.
Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Enfin, on pourra en parler pendant encore des heures et des jours, mais malheureusement, nous n'avons pas 3 jours d'antenne.
Malheureusement.
Et du coup, on va se poser une autre question que Ludo nous s'est posée ou nous a posée hors antenne. C'est pourquoi. Pourquoi?
Voilà.
Pourquoi est-ce qu'on essaie? Est-ce qu'on veut construire des intelligences
J'aime
artificielles?
J'aime bien faire des questions claires et précises. Pourquoi?
Non mais pourquoi veut-on entre guillemets absolument construire une intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça va nous apporter fondamentalement? Antoine, tu as un élément de réponse que tu me regardes avec avec l'œil qui brille comme ça.
Il y a déjà le défi simplement. C'était au départ ça a commencé. Pourquoi on voulait construire une machine qui joue bien aux échecs? parce que c'était drôle, parce que c'était un défi de concevoir des algorithmes, de pousser la logique au maximum, de comprendre vraiment l'essence du jeu pour pouvoir le réduire à une série de règles qu'on pourrait appliquer de manière récurrente et qu'un être humain, parce qu'il est inattentif, ne pourrait pas faire. Donc c'était une espèce de jeu, là, comme pourquoi on aime bien résoudre des énigmes, parce que c'est un défi pour l'esprit. Et du coup, des mecs se sont lancés là-dedans et ils ont super bien réussi. Et ici, récemment, la dernière avancée, c'était même un ordinateur qui réussit à battre le meilleur joueur du monde au jeu de Go. Mais on n'est pas encore... C'est un jeu beaucoup plus complexe que les échecs. Et du coup, ils ont fait des matchs et l'être humain a gagné. Mais du coup, on peut encore essayer de pousser plus loin, faire en sorte que l'ordinateur gagne tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, plus personne, aucun être humain n'est capable de battre un ordinateur parfait aux échecs. Là, il gagne 100% du temps. C'est impossible de gagner. Pour le jeu de Go, c'est pas encore le cas. Du coup, c'est un défi d'y aller. Donc au départ, je pense que c'est ça. C'est simplement la curiosité. On se dit, ouais, ce serait cool si on pouvait faire ça.
C'est vrai qu'au fond, pourquoi l'informatique existe, c'était aussi à la base un défi de faire des jeux logiques.
On est quand même parti d'une base de faire des jeux logiques à essayer de reproduire l'intelligence humaine, hein.
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un monde entre les deux, mais entre les premiers mecs qui ont trouvé ça rigolo d'essayer d'analyser des jeux de manière logique pour gagner plus souvent que les autres, et puis de voir si on pouvait effectivement l'implémenter dans quelque chose, ça semble une évolution relativement naturelle.
Ah, mais moi j'aimais bien ton point de vue hors antenne, si tu veux bien l'exposer, je trouvais ça super intéressant et j'étais très d'accord avec toi.
Mais c'est parce qu'il ne faut pas que je dise trop de choses intelligentes à l'antenne, il ne faut pas que je casse mon image de mec cool.
Exactement.
Ce que je disais, c'est qu'il y a aussi un peu, hors antenne, c'est qu'il y a aussi un peu une notion de jouer à Dieu, c'est-à-dire de se dire, ok, la nature a pu le faire... Pourquoi pas nous ? Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi, cette salope ? Et du coup, on peut aussi essayer pour des mauvaises raisons. L'idée de se dire, ok, on ne sait pas trop comment ça marche, mais si on pouvait le faire, on serait content.
Oui, c'est ça, l'image de la société d'aujourd'hui, je pense. être toujours le plus fort, être toujours le plus viril, et ça touche au narcissisme, effectivement, de l'homme. On le disait avec le capitalisme, toujours plus haut, toujours plus fort, c'est exactement ça.
Donc je pense que...
Non mais je disais en revenant dans Jurassic Park, c'est une des questions qui se faisait dans le premier Jurassic Park, c'est que dans le film en question, ils avaient le pouvoir de créer des dinosaures, ils l'ont fait, ils ne sont pas demandé s'ils en avaient le droit ou des choses comme ça, et c'est à peu près le même concept avec la machine, comme tu dis, l'homme aime bien se sentir tout puissant, et donc...
On va un peu à la réduire à qui a la plus grande, quoi.
Ah, c'est triste, mais c'est comme ça.
Oui, c'est comme ça, je suis désolée.
C'est triste, surtout pour toi.
Nous,
on sait qu'on a encore une chance éventuellement de concourir.
Non, mais comme quoi, je n'ai pas besoin de ça pour justement prouver ma base sur Terre. J'ai envie de dire, j'allais dire ma supériorité, mais c'était tellement,
c'était tellement évident.
Horrible comme mot, je trouve.
Donc, oui, voilà. En fait, comme vous vous en doutez, Ludo et moi, on est un peu comprimés dans le studio vu la taille du cou de Laura.
non, je ne suis pas comme ça.
Mais oui, c'est un peu triste quand même. Enfin, je trouve. Après, on parlait du capitalisme, c'est aussi très triste, mais c'est le même principe. Non, mais c'est le même principe. Tu vois, je trouve ça triste de dire j'ai envie de me donner plus de pouvoir que ce que je n'en ai. Mais au final, quand tu parles intelligence artificielle, c'est vrai que l'avoir fait, c'est bien. Comme dit Laura, j'ai la plus grande. Mais après quoi ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Je pense qu'en fait, pour avoir une vision globale des choses, il faudrait peut-être réunir les deux points de vue qu'on énonçait. Je pense qu'Antoine a raison. Au début, tout au début du délire, entre guillemets, les gens ne pensaient peut-être pas aller si loin. Ils ne se sont pas levés un matin en se disant aujourd'hui, je vais recréer l'intelligence. Ils ont démarré de petits problèmes un peu ludiques, un peu marrants. Et en voyant que ça marchait, c'est un peu comme un édifice avec des Legos, quoi. Ils sont montés toujours plus haut et du coup, ils ont commencé à entrevoir cette espèce de Saint Graal là-haut. Tu sais, c'est comme le moment où t'étais petit, tu voyais la boîte de cookies sur l'étagère. Tu savais que c'était possible de l'atteindre, tu tendais le bras, t'avais l'impression que t'étais dessus, mais tu la touchais toujours pas.
Oh, c'est tellement beau comme métaphore. Je te félicite.
Le traumatisme de Ludo.
Le traumatisme infantile.
C'est pour ça que je fais 1m90 en fait.
À force de tendre le bras, tu t'es tendu.
Non, mais c'est vrai, je pense qu'à la base, il y avait juste le plaisir de construire quelque chose de ludique, mm-hmm. et puis maintenant qu'on se dit, ouais, mais si j'arrive à faire tout ça, t'imagines, je pourrais peut-être bien faire ça, et comme on s'en rapproche toujours de plus en plus, maintenant il y a cette espèce de fébrilité de la boîte de cookies.
Et évidemment, il y a cet enjeu de compétition entre toutes les boîtes qui essayent, évidemment.
En plus.
Et du coup, encore une fois, on en revient.
Là, c'est pas avoir la plus grosse, c'est être le plus rapide.
Oui,
du coup,
oui.
L'analogie de la plus grosse perd tout son sens à ce moment-là, je pense.
Ça tient toujours dans la même analogie, hein, je suis désolée. Mais non,
qui baignons, entre guillemets, dans le milieu de la recherche et tout ça, qui m'en baigne dedans.
Oui, c'est ça, avoir la plus grosse, c'est finir le plus vite, mais on baigne dedans.
Non, non, mais... ça suffit, ça me rend malade.
Est-ce que ce problème-là se pose dans les autres types de recherche, entre guillemets, fondamentales ou moins fondamentales? Est-ce qu'on peut, faire ce constat pour n'importe quoi, dire par exemple bêtement un physicien théoricien qui essaie de comprendre l'univers, est-ce qu'il ne veut pas se prendre pour Dieu aussi, tu vois ce que je veux dire?
Moi je suis d'accord avec toi sur ce coup-là.
Enfin tu vois, à ce rythme-là, tout le monde veut se prendre pour Dieu, tu vois.
C'est tout con, mais prenons le remède soi-disant du cancer, hein. Toutes les boîtes s'y attellent très très fortement et ce sera le premier qui va découvrir le remède contre le cancer.
Qui gagnera plein d'argent, donc
oui, tout à fait.
Ça n'a pas de...
Mais je pense que là on soulève un point beaucoup plus vaste que l'intelligence artificielle, c'est que l'homme se prend un peu toujours pour... Enfin, à un moment ou à un autre, essaye toujours de se prendre pour Dieu dans à peu près tout ce qu'il fait. Enfin, à peu près. Mm-hmm. Essaye pas de faire caca aussi bien que Dieu, mais dans des tas d'autres entreprises constructives, on essaye toujours à un moment ou à un autre de se rapprocher de l'idée qu'on a de la perfection. Le fameux Dieu, entre guillemets.
Oui.
Si on définissait Dieu comme le truc parfait qui sait tout faire super bien... Hein.
L'intelligence artificielle forte.
Voilà.
Jusqu'au jour, à force de chercher cette perfection, on va y être berné, quoi.
Mais je pense pas qu'on puisse faire autrement, de toute façon. On peut pas s'arrêter de chercher, sinon on s'ennuie.
Bien sûr. Mais c'est ça, c'est pas lié.
Et on est tellement terrorisé par l'ennui, mais là je parle pas au point de vue individuel, même. L'humanité est tellement, est tellement fascinée par sa propre déchéance qu'il faut qu'elle s'occupe. Mm-hmm. Je crois que c'est ce genre de choses, on peut pas arrêter notre curiosité naturelle.
Je
pense que c'est ce qui pousse à faire de grandes ou de terribles choses.
Mm-hmm. Ça peut être positif comme négatif.
Oui, c'est ça. Je veux dire, quand j'étais en réto, on avait eu au cours de religion une espèce d'introduction très très rapide à la philosophie et on nous avait dit que, je sais plus qui, avait dit que l'être humain c'était un corps fini habité par l'infini. Et je pense que c'est vraiment ça. Enfin, on est fini dans le temps, on est fini dans l'espace. Il y a des tas de choses qu'on peut pas faire, en tout cas individuellement à notre petite échelle. Mais c'est fini. C'est ça?
Bientôt.
Ça arrive. Fini. Ok.
Termine ta phrase rapidement.
Ben que du coup on a en nous cette volonté d'aller toujours plus loin, etc. Et c'est ce qui pousse à peindre la Joconde ou à faire des camps de concentration pour le faire très très rapidement. Si on a aucune limite, on peut faire des choses magnifiques et en même temps, s'il n'y a pas de contrôle, pas de limite, on peut aussi verser dans l'extrême inverse, quoi.
En effet. On a soulevé pas mal de points très très profonds. On en reparlera peut-être un moment. Affaire à suivre. Je tiens à vous remercier, Laura et Ludo, d'être venus.
Merci beaucoup.
C'était très sympa.
C'est toujours un délice de miel et de lait.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci Antoine pour cette énième émission sur UFM. Justement, on va vous proposer de rester sur UFM et on va se retrouver la semaine prochaine avec
Si tout va bien.
Si tout va bien, s'il y a plus de problème avec la programmation.
Ouais, et on se quitte sur du Franz Ferdinand. À plus à tout le monde.